RFI, 7h à Paris, 6h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Martin Gaz.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
À la une ce matin, ces images choquent au Proche-Orient.
Cette mise en scène qui provoque un vrai malaise, celle de prisonniers palestiniens affublés d'une étoile de David au moment de leur libération par les autorités israéliennes. On y revient dès le début de ce journal à Jérusalem avec Samy Pourlifa.
Israël où a atterri Marco Rubio.
Le secrétaire d'État américain arrive de Munich. Il s'est entretenu par téléphone avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Une réunion entre Washington et Moscou semble imminente, sûrement en Arabie Saoudite. Un nouveau président à la commission de l'Union africaine, exit Moussa Faki Mahamat. Bienvenue Mahmoud Ali Youssouf, le Djiboutien, a fait sensation hier à Addis Abeba. Nous serons aussi en Serbie après cette manifestation monstre à Kragujevac, le jour de la fête nationale. Et puis nous terminerons, Julien, au cinéma. Bridget Jones s'inscrit sur Tinder. La célibataire la plus célèbre d'Angleterre revient pour un quatrième film.
On débute par ces échanges d'otages et de prisonniers entre Israël et le Hamas, des libérations très mises en scène.
Et ces images choquent, Julien, alors que le mouvement islamiste palestinien a libéré, comme convenu, 3 otages binationaux. L'État hébreu a relâché 369 détenus palestiniens en les forçant à porter des survêtements floqués d'une étoile de David. Révoltant, répondent des Palestiniens, mais aussi des Israéliens qui y voient un symbole historique délétère. Correspondance à Jérusalem, Samy Bourrelifa.
L'administration pénitentiaire israélienne a choisi d'immortaliser cette mise en scène et a publié 2 photos. Sur le premier cliché, une dizaine de détenus palestiniens à genoux portant ses survêtements avec une étoile de David sur le torse et sur le dos. Et cette inscription en arabe, ni oubli, ni pardon. Sur la seconde photo, on aperçoit derrière des barreaux un groupe important de prisonniers palestiniens vêtus de ce même habit. Certains sont pieds nus. Qadoura Fares, président du club des prisonniers palestiniens, regrette cette mise en scène scandaleuse.
Comme si Israël s'inspirait des souffrances infligées par les nazis au peuple juif pour refaire subir la même chose. S'il y a bien un peuple qui peut être sensible au symbole qu'une telle image renvoie, c'est le peuple juif. Et pourtant, Israël a choisi de reprendre ses méthodes de fasciste. C'est à la fois raciste et idiot, c'est un comportement criminel.
Le club des prisonniers palestiniens est une organisation civile de défense des droits des détenus palestiniens écroués en Israël. Depuis le début de la guerre à Gaza, elle a publié de nombreux rapports pour dénoncer la torture et les sévices infligés par Israël aux détenus palestiniens.
Dès leur sortie de prison, certains ex-détenus ont directement été hospitalisés. Presque tous ceux qui ont été relâchés souffrent d'anémie et de maladies de peau. Certains ont même des fractures aux côtes, des dents cassées. Certains vont garder des séquelles à vie. Et je ne parle même pas des séquelles psychologiques causées par les souffrances qu'ils ont endurées.
Selon Qadoura Fares, 58 prisonniers palestiniens sont morts en détention durant les 16 derniers mois. Des milliers de Gazaouis sont détenus par Israël sans charge ni jugement. Samy Bourkifa, Jérusalem, RFI.
Et de retour à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, de nombreux Palestiniens libérés ont d'ailleurs brûlé ses vêtements devant l'hôpital européen.
Au Liban voisin, nouvelle frappe israélienne dans le sud du pays.
Et ce, à 2 jours de la nouvelle date butoir du retrait des troupes de l'État hébreu, qui doivent donc se retirer du sud Liban avant le 18 février. Au moins 2 personnes ont été tuées, fait savoir un média officiel libanais. Selon l'État hébreu, cette frappe visait un membre important de l'unité aérienne du Hezbollah.
Marco Rubio est arrivé au Moyen-Orient.
Le secrétaire d'État américain qui a atterri hier soir à l'aéroport de Tel Aviv pour sa première tournée dans la région. Il doit rencontrer ce dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et doit aborder la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas qui prévoit la libération de tous les otages et la fin de la guerre. Marco Rubio qui arrive de Munich en Allemagne, où il a beaucoup été question d'Ukraine. Marco Rubio qui a d'ailleurs appelé son homologue russe, c'était Sergueï Lavrov, rejoint le coup de fil Donald Trump-Vladimir Poutine. De nouveaux contacts entre Washington et Moscou qui augurent d'une rencontre imminente, Pascal Thibault.
Une rencontre avec des hauts responsables américains, russes et ukrainiens pourrait avoir lieu dans les prochains jours en Arabie Saoudite. L'annonce a été faite à Washington après la confirmation d'un appel téléphonique entre le secrétaire d'État américain Marco Rubio et son homologue russe Sergueï Lavrov. Un échange qui succède à celui qui a eu lieu cette semaine entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Marco Rubio lui-même ainsi que le conseiller à la sécurité nationale du président américain Mike Waltz et l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient Steve Witkoff doivent participer à cette rencontre en Arabie Saoudite. Les responsables américains tablent sur la participation du président ukrainien Zelensky. On ne sait pas encore qui représentera la Russie. Cette accélération du calendrier et des négociations à court terme sur l'Ukraine inquiète les Européens et ont dominé les débats à la conférence sur la sécurité de Munich. Volodymyr Zelensky a répété qu'aucune solution sans l'Ukraine, mais aussi sans l'Europe, ne pourrait être acceptée. L'envoyé spécial américain Keith Kellogg a laissé entendre que les Européens ne seraient pas directement impliqués dans les négociations, mais qu'ils auraient leur mot à dire. Pascal Thibault, Berlin, RFI.
Volodymyr Zelensky joue, lui, donc, la carte de l'Europe.
Le président ukrainien qui était aussi à Munich, en Allemagne, et qui a mis les Européens sous pression, les exhortant à se renforcer. Le temps où l'Amérique soutenait l'Europe simplement parce qu'elle l'avait toujours fait et révolue, a-t-il déclaré. Le président ukrainien qui a aussi invité Keith Kellogg, émissaire de Donald Trump pour l'Ukraine, à l'accompagner sur la ligne de front.
RFI, 9h05 à Addis Abeba, le Tchadien Moussa Faki Mahamat laisse sa place.
Au Djiboutien, Mahmoud Ali Youssouf, qui lui succède à la tête de la Commission de l'Union africaine. Et c'est une surprise, il ne faisait pourtant pas figure de favori hier dans la capitale éthiopienne face au Kenyan Raila Odinga. Mais à l'usure, le ministre des Affaires djiboutien a finalement créé la surprise. L'homme de 59 ans, parfaitement trilingue, a su séduire 33 États membres qui ont voté pour lui. On rejoue l'élection avec notre envoyé spécial Florence Maurice.
Mahmoud Ali Youssouf a mené une campagne à bas bruit, moins tapageuse que celle de Raila Odinga, qui s'est largement affichée aux côtés de chefs d'État et se vantait de pouvoir l'emporter dès le premier tour. Et pourtant, la victoire djiboutienne n'a pas surpris les fins connaisseurs de l'Union africaine. Ces derniers jours, en coulisses, beaucoup de diplomates vantaient sa compétence, sa maîtrise des dossiers et sa connaissance de l'institution. Des qualités essentielles, disait-on, à l'heure où l'Union africaine traverse une crise de son leadership. Beaucoup, à l'inverse, émettaient des doutes sur la capacité de Raila Odinga à assumer pleinement cette fonction à 80 ans et avec un profil très politique, alors même que les chefs d'État africains sont connus pour se méfier des fortes personnalités capables de leur tenir tête pour diriger la commission. Raila Odinga est donc certes arrivé en tête au premier tour avec 20 voix sur 49, mais il n'a pas bénéficié du report des voix du candidat malgache éliminé après le troisième tour. Le Djiboutien avait un autre atout, parler les trois langues de l'Union africaine, anglais, arabe, français, ce qui lui a permis de rassurer parmi les pays francophones et arabophones sur le continent. Florence Maurice, Addis Abeba, RFI.
Mahmoud Ali Youssouf qui prendra ses fonctions le 15 mars prochain pour un mandat de 4 ans. Le sommet de l'Union africaine où la première ministre congolaise, Judith Suminwa, a refusé de prendre place sur la photo officielle. Hors de question de s'afficher aux côtés de l'agresseur, explique-t-on dans son entourage. Le conflit dans l'Est de la RDC qui s'est invité dans les discussions à Addis Abeba, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dit vouloir éviter à tout prix une escalade régionale alors que des combattants du M23, soutenus militairement par le Rwanda, sont entrés ce vendredi dans Bukavu, la situation à Bukavu. On y revient justement dans une vingtaine de minutes dans le prochain Journal Afrique.
Au Mali, au moins 48 morts lors de l'effondrement d'une mine d'or dans l'ouest du pays.
Bilan très lourd sur ce site d'orpaillage illégal à Bilalikoto, dans une mine anciennement exploitée par une entreprise chinoise. Les victimes sont essentiellement des jeunes femmes, selon la police locale. Les accidents de ce type sont fréquents au Mali. L'an dernier, plus de 70 personnes sont mortes sur un site près de Kangaba, au sud-ouest de Bamako.
Bousculade mortelle en Inde.
Au moins 18 personnes sont mortes dans une gare de New Delhi au départ de train à destination du pèlerinage hindou de la Kumbh Mela dans le nord du pays. Les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les causes de ce mouvement de foule. Et puis en Serbie, Julien, une fête nationale sous le signe de la protestation. Nouvelle manifestation d'ampleur dans la quatrième ville du pays. Des étudiants venus de toute la Serbie ont convergé vers Kragujevac pour demander les réformes anticorruption. Le pays vit au rythme des mobilisations depuis le mois de novembre dernier. Ils étaient encore des dizaines de milliers de manifestants. Hier, reportage à Kragujevac de Laurent.
Le centre-ville de Kragujevac est devenu 15 heures durant une vaste zone piétonne où déambulent les manifestants. L'ambiance est bon enfant. Dans la rue Miloche, la quarantaine a installé une table à laquelle tout le monde se presse.
On a acheté de la nourriture et on l'offre aux gens qui sont à la manifestation. On a de la pizza, des gâteaux maison que préparent des membres de nos familles et qu'ils apportent au fur et à mesure. Il y a des stands comme ça un peu partout en ville. Pour les gens, c'est normal.
Dans un cortège, cette femme de 55 ans reproche son népotisme au régime du président Vučić.
À cause du parti au pouvoir, j'ai perdu mon travail. Mon ancien directeur a engagé des militants du parti à notre place. Nous sommes 9 femmes à avoir perdu notre travail. Notre but maintenant, c'est de chasser ce gouvernement. On n'a plus rien à leur dire.
Stéphane, 28 ans, brandit une pancarte au slogan éloquent.
C'est écrit, votre prochain meeting sera à Zabella. Zabella, c'est une prison en Serbie. C'est mon message pour la racaille qui est au pouvoir. Vous allez finir en prison et ce système qui est en place tombera.
Pour les manifestants, il ne s'agit plus seulement d'obtenir justice pour l'effondrement de la gare de Novi Sad et ses 15 morts. Ils veulent tourner la page de l'ère Vučić. Laurent Rouy, Kragujevac, RFI.
L'actualité en France, c'est un ordre d'évacuer à la Gaîté Lyrique.
Le culturel de l'Est parisien temporairement fermé au public. car la salle est occupée par quelques 400 jeunes migrants depuis quelques semaines. La justice leur a demandé d'évacuer les lieux d'ici un mois. Des centaines de personnes ont manifesté en soutien ce samedi et réclament la reconnaissance de la minorité des jeunes migrants accueillis, ainsi qu'un accès pour eux à un logement digne et à la scolarité. Reportage à Rambeng.
Il y avait beaucoup de personnes à Paris ce samedi venues soutenir les mineurs étrangers qui luttent depuis 2 mois pour leur droit à un logement digne et à l'accès à la santé et à l'école. Amadou, 15 ans, fait partie des occupants de la gaieté lyrique.
Tout ce qu'on veut, nous les jeunes, c'est de rester mobilisés encore. On ne va pas lasser quand même. On ne mérite pas de rester dans la rue. On ne veut pas être des bandits. On veut... Tout ce qu'on les demande, ce n'est pas de grandes choses. C'est pour nous héberger et aider à être à l'école, on étudie et puis on reste comme toutes et tous les enfants des Français.
Qu'on respecte les droits que leur confère leur minorité, c'est tout ce que les jeunes isolés réclament. Ils ont eu pour réponse un ordre d'évacuer le théâtre parisien prononcé par la justice qui a été saisie par la mairie de Paris, propriétaire du lieu. Abdoul, 16 ans, exprime sa déception.
On ne s'imaginait pas que cette décision pourrait tomber en ce moment d'hiver. Qui dit de nous expulser 400 jeunes presque dans la rue. On ne sait pas comment on va survivre là-bas. C'est compliqué. Surtout pas pour nous, les garçons, mais les filles qui sont avec nous. Il y en a 14 filles.
Les mineurs non accompagnés ont 1 mois pour évacuer la gaieté lyrique. Mais d'ici là, ils continuent de se mobiliser pour le respect de leurs droits.
Reportage d'Arambeng du service France de RFI.
Et on termine sur une note plus légère pour retrouver Bridget Jones.
Vous êtes forcément fan de son journal intime dans vos jeunes années, Julien. Oui, la célibataire britannique la plus connue au monde qui revient donc sur grand écran pour un 4e épisode. Renée Zellweger qui a bien grandi, elle doit faire le deuil de la disparition de son mari. Bridget Jones, mère de famille célibataire et qui doit aussi réapprendre à vivre avec son temps, Sophie Tarletin.
Madame Darcy.
Monsieur Walliker.
Pourquoi ta grand-mère se rend en pyjama?
Elle est toujours aussi blonde, maladroite et affublée de son éternel pyjama. Mais Bridget Jones a pris de l'âge et les drames de la vie ne l'ont pas épargnée. Si la quinquagénaire se retrouve mère célibataire, c'est parce qu'elle n'arrive pas à surmonter le deuil de la mort de son mari, Mark Darcy, alias Colin Firth. La londonienne va se reprendre en main, retrouver son journal intime et connaître de nouvelles mésaventures amoureuses du signe des temps aux applis de rencontre.
Ça fait 4 ans maintenant.
T'es devenue une bonne sœur très très coquine.
Je t'ai inscrite sur Tinder.
C'est quoi Tinder?
Retrouver Bridget Jones et avec elle ses amis et notamment le playboy vieillissant Daniel Cleaver, incarné par Hugh Grant, c'est renouer avec une copine perdue de vue. Ce 4e épisode arrive avec humour à illustrer la carte du tendre 2.0 post-MeToo où les jeunes hommes se préoccupent désormais d'obtenir le consentement des femmes. Alternant rire et larmes, ce film relève le défi de continuer à plaire à un public féminin soucieux d'inclusivité tout en conservant l'ADN de la comédie romantique.
Un public féminin comme masculin, Sophie Tarletin, oui. On se fait une séance ciné comme vous voulez, Julien Coquelrouet, mais enfin quand même, après RFI Matin, je vous laisse là.
Oui, bah si vous faites rien cet après-midi par exemple. Merci.
Plaisir.
Merci Martha Gaze, à tout à l'heure. RFI Matin, la suite, c'est un nouveau point sur l'actualité africaine dans un peu plus d'un quart d'heure. L'Est de la République démocratique du Congo et la situation floue à Bukavu. Ce matin, les hommes du M23 soutenus par le Rwanda ont été aperçus dans la capitale du Sud Kivu dès vendredi, mais le groupe armé n'a pas revendiqué la prise de la ville. Les habitants de Bukavu ont entendu des tirs sporadiques tout au long de la journée d'hier. Vous entendrez le témoignage de l'un d'entre eux dans le journal de 6h30, temps universel. À suivre d'ici là, notamment, ligne de défense. C'est l'OTAN qui intègre l'intelligence artificielle à ses systèmes de décision. Et tout de suite, les sports. Avec vous Antoine Grenier, en Ligue 1 du football en France, une soirée de démonstration du côté de Marseille et de Monaco.
Pendant que Paris ne s'est pas fatigué pour dominer Toulouse 1-0, Marseille a logiquement surclassé Saint-Étienne 5-1 avec 5 buteurs différents. Et Monaco s'est offert une victoire écrasante 7-1 sur le FC Nantes. Des Canaries qui avaient pourtant mené au score dès la 4e minute avant l'expulsion précoce de Kozza à la 8e. Et là, les Monégasques ont enchaîné avec au passage un triplé du Danois Mika Biérette, deuxième triplé pour l'ancien joueur de Sturm Graz après celui face à Auxerre, de quoi sidérer son entraîneur à 18h.
Yes, I'm impressed for sure. It's the second time he scored 3 goals.
Bien sûr que je suis impressionné. C'est la deuxième fois qu'il marque un triplé. Son impact est indéniable. 7 buts en si peu de matchs. C'est impressionnant. Mais nous sommes aussi ravis d'avoir vu l'entrée de Georges Ilinikena, qui a marqué 2 buts pour son retour de blessure. Et puis, il y a la belle histoire de Mamadou Koulibaly. Son dernier match, c'était notre dernier à la maison la saison dernière, déjà contre Nantes. C'était bien qu'il rejoue après sa longue blessure due à une rupture des ligaments croisés. Tout le monde était ravi de le revoir sur un terrain.
Monaco, 3e du classement avant la fin de cette 22e journée de Ligue 1 et les 5 matchs du jour. Montpellier-Lyon, Le Havre-Nice, Lens, Strasbourg, Reims-Angers et Rennes-Lille.
En Angleterre, Liverpool veut reprendre 7 points d'avance sur Arsenal.
Les Reds accueillent Wolverhampton dès 14h temps universel. Mo Salah et consorts qui ont suivi hier le succès des Gunners 2-0 sur la pelouse de Leicester, ce qui leur permet de revenir provisoirement à 4 longueurs. Une 25e journée qui a vu Manchester City se remettre d'aplomb avec une victoire 4-0 sur Newcastle. L'autre Manchester United affronte Tottenham ce dimanche en conclusion de cette journée de Première Ligue à 16h30 temps universel.
Côté italien, un choc en clôture de la 25e journée de Serie A.
La Juventus face à l'Inter Milan, des Milanais qui peuvent prendre la tête au Napoli, reparti de Rome hier soir avec un nul de partout face à la Lazio. Mais l'Inter pourrait être contraint de se passer de Marcus Thuram, touché à la cheville et qui s'entraîne seul. L'entraîneur interiste Simone Inzaghi n'est pas certain de pouvoir compter sur lui ce soir.
Nous sommes tous conscients de l'importance que Thuram a dans notre équipe, mais à ce stade, la tendance concernant sa présence penche plutôt vers le non que vers le oui. C'est un garçon généreux qui, lundi dernier, s'est dit disponible malgré le coup qu'il avait reçu à Florence. Mais jeudi, il a dû sortir après 25 minutes. Il doit prendre soin de lui, il travaille tout seul et nous verrons s'il peut démarrer ou s'il pourra donner un coup de main.
Juve Inter, coup d'envoi 19h45, temps universel.
Enfin, en Espagne, le Real piétine à quelques jours de son barrage retour de Ligue des Champions.
Les Merengues laissent filer 2 points et l'occasion de creuser l'écart en tête de la Liga. Réduit à 10 après l'expulsion de Jude Bellingham, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont été tenus en échec 1-1 par Osasuna.
Voilà pour le foot, on termine avec le basket et la soirée du All-Star Game en NBA la nuit prochaine.
Une édition 2025 qui marque une rupture avec le lancement d'une nouvelle formule. Jusqu'ici, les joueurs du Rising Star, le match des jeunes talents, se contentent de jouer le vendredi. Désormais, ils s'affrontent pour une place dans le sein des saints. À ce petit jeu, c'est la Team C, l'équipe emmenée par l'arrière des San Antonio Spurs, Stephen Castle, qui s'est qualifié et qui disputera donc les demi-finales du All-Star Game 2025.
Merci Antoine Grenier. Et dans Ligne de Défense, cette semaine, l'OTAN impose l'intelligence artificielle au cœur des systèmes de décision militaire. Bonjour Franck Alexandre.
Bonjour Julien.
À l'occasion du sommet de Paris qui s'est tenu cette semaine, vous avez pu rencontrer l'amiral français Pierre Vandier, numéro 2 de l'Alliance en charge de la transformation. Et l'IA pour l'Alliance Atlantique, c'est déjà au quotidien une réalité.
Eh bien oui, car en matière d'innovation technologique, Julien, l'OTAN a l'ambition de tirer les alliés vers le haut. Et à Norfolk, quartier général du commandement allié transformation, la CT, les premières intégrations, les premiers outils d'intelligence artificielle, nous dit l'amiral Vandier, sont déjà en place.
Sur nos réseaux NATO Secret et NATO Unclassified, on a des outils d'intelligence artificielle. Donc au quotidien, on l'utilise pour la production documentaire, pour résumer des papiers, pour naviguer dans l'immense réseau documentaire de l'OTAN. Et donc ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Donc on se forme, on a un monthly package, comme on dit en anglais. Donc tous les mois, on reçoit en fait un mail avec un certain nombre de liens, des podcasts, des vidéos. Et puis on a 3 sessions par an où tous les officiers généraux sont formés.
Julien, donc vous l'avez compris, personne n'échappe à l'IA au sein de l'OTAN, à ses applications militaires qui viennent accélérer le temps.
Un travail qui demande une journée peut finalement se faire en 1 heure. On va pouvoir produire beaucoup plus de contenu intéressant, pertinent. Donc c'est un peu une révolution des états-majors. Après, vous avez l'IA qui est embarquée et on voit arriver aujourd'hui, grâce aux capacités d'edge computing, des solutions d'IA embarquées qui sont très frugales, qui ne demandent pas des big data centers. Ça tourne sur votre téléphone. On voit ça arriver dans les systèmes d'armes, dans les systèmes d'adaptation. Votre système va vous proposer la meilleure solution possible compte tenu de l'environnement.
Franck, l'intelligence artificielle sera d'ailleurs bientôt intégrée dans les opérations de l'OTAN et d'abord en mer Baltique.
Premières expérimentations avec Baltic Sentry, opération de l'OTAN menée en ce moment même pour protéger les câbles sous-marins et les conduites de gaz stratégiques en Baltique. Des infrastructures menacées, risques de sabotage, Moscou est pointé du doigt, mais les marines de l'Alliance Atlantique ne peuvent surveiller chaque kilomètre du réseau. L'IA est donc un précieux atout. Elle sera d'abord déployée sur 2 navires à la fin du mois, puis précise l'amiral Vendier, sur 10 bateaux de l'OTAN d'ici l'été.
On va rassembler les données acquises par les navires de surface avec une flotte de drones de surface et on va faire tourner des routines IA qu'on a déjà expérimentées. On va pouvoir produire une situation surface augmentée avec des alertes, avec des systèmes qui vont dire c'est là qu'il faut regarder, c'est là qu'il s'est passé des choses bizarres, de manière à ce qu'ensuite la partie action puisse être orientée correctement. Ah ben le but c'est que ce soit en temps réel. C'est-à-dire qu'effectivement vous avez tout ce flux de données qui vient et quand vous avez par exemple des bateaux qui se rencontrent et qui ne devraient pas se rencontrer, des anomalies sur la vitesse, des gens qui coupent leur AIS, le système de positionnement radio, à ce moment-là on a des alertes qui sortent et on peut directement intervenir plutôt que de se poser la question 10 jours après, qu'est-ce qui s'est passé ?
Une course technologique dopée à l'IA est engagée et les enjeux sont importants.
Les impératifs, c'est l'interopérabilité, faire que les 32 alliés puissent travailler ensemble avec une confiance dans les données, dans leur utilisation, avec des règles d'engagement qui sont comprises par tous, et puis que les flux de données qui sont produits par les différents alliés puissent se mélanger, en fait, puissent pouvoir participer à la même situation.
L'Alliance Atlantique n'a pas d'armée. Julien, elle agrège les forces des alliés, des forces qui parfois manquent d'épaisseur. L'intelligence artificielle sera donc peut-être un moyen de conserver un coup d'avance.
Merci Franck Alexandre.
RFI Matin.
C'était cette semaine et on vous en a beaucoup parlé sur RFI, le sommet mondial pour l'action sur l'intelligence artificielle à Paris. Des discussions entre dirigeants, mais aussi l'occasion pour les acteurs de la tech de réfléchir aux questions que pose l'avènement de l'IA dans nos vies. L'une d'entre elles, c'est la cybersécurité. Et mardi, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information organisait un exercice de crise pour imaginer la réponse aux nouvelles attaques que l'intelligence artificielle permettra demain. En donnant des moyens sans précédent à ceux qui les commettent, il faut s'y préparer, car même sans IA, la cybersécurité est déjà aujourd'hui un enjeu mondial. Et dans notre tour du monde des correspondants ce matin, regard sur 3 pays où cette question est centrale. En Corée du Sud, par exemple, la cyberguerre fait partie du quotidien, alors que le voisin nord-coréen qui multiplie les attaques informatiques aussi bien sur les institutions publiques que privées. Face à cette menace régulière, la Corée du Sud se prépare, c'est Lio Fioretti.
1,5 million d'attaques informatiques chaque jour, une véritable guerre invisible que livre la Corée du Nord à son voisin au sud. De l'espionnage militaire au vol bancaire en passant par la mise à l'arrêt de certains services, les pirates informatiques nord-coréens ratissent large et sont même parvenus à infiltrer les téléphones portables de l'entourage du président sud-coréen l'an dernier. À Séoul, l'Institut pour la stratégie de sécurité nationale œuvre à former les fonctionnaires mais aussi les entreprises privées à se protéger au mieux des attaques informatiques. L'objectif est d'être prêt à se défendre à tous les niveaux de la société. Une défense préparée, mais la Corée du Sud travaille également à la riposte. Une base de 100 000 réservistes de l'armée formée en cybersécurité sera déployée à partir de 2025 pour répondre en cas d'attaque majeure. Un conflit rendu d'autant plus difficile par la nécessité de s'actualiser tous les jours face aux progrès technologiques de part et d'autre de la frontière coréenne.
C'est Lio Fioretti à Séoul, cap à présent sur un pays devenu expert aussi bien dans la cybersécurité que dans le cyberespionnage. Israël très tourné vers la technologie, notamment dans le domaine militaire. Israël où la guerre qui dure depuis 16 mois montre également les limites de ce modèle, Michel Paul.
Attaquée par surprise le 7 octobre 2023, la défense israélienne reposait en grande partie sur la cybersécurité et c'est un peu l'arroseur arrosé. Mais la guerre qui a suivi a paradoxalement relancé la demande dans le monde pour des systèmes made in Israel utilisés dans ce conflit très high-tech, à commencer par les systèmes d'interception de missiles dont l'efficacité a été prouvée. Toujours sur le devant de la scène, l'unité 8200, les commandos cyber du renseignement militaire israélien. Ils avaient détecté les prémices de l'attaque, mais en avaient donné une interprétation fallacieuse. Il y a eu aussi des dérapages comme le logiciel espion Pegasus de la société NSO, dont les dommages se font encore ressentir, mais en marge de la guerre, les start-up israéliennes dédiées à la cybersécurité, notamment dans le domaine financier, continuent de fleurir.
Michel Paul à Jérusalem, et puis tout autre exemple en Estonie, un pays tellement numérisé qu'il en a hérité d'un surnom, e-Estonia. La lutte contre la cybercriminalité y est devenue une priorité ces 20 dernières années, notamment en raison de la proximité géographique de la Russie, Marielle Vituro.
Depuis la cyberattaque de 2007, quand la Russie a bloqué banques en ligne et services administratifs après que l'Estonie a déplacé un monument soviétique, le pays balte a fait de la cybersécurité sa spécialité. Dès l'année suivante, le centre d'excellence de l'OTAN s'installait à Tallinn. Des exercices grandeur nature entre alliés sont organisés pour apprendre à réagir. Qui dit société en ligne dit aussi être exposé au risque. Selon le rapport de l'autorité des systèmes d'information, 2024 a été une année record en Estonie avec plus de 6000 incidents avec un impact concret. Des écoles ont été ciblées. Pour protéger les services administratifs qui sont tous en ligne, le gouvernement utilise la technologie de la blockchain qui permet d'authentifier les données de manière mathématique et a ouvert il y a 10 ans une ambassade numérique au Luxembourg pour protéger les informations de l'État. Mais la cybersécurité est une affaire de formation continue. L'école est le premier lieu où apprendre et des sites publics existent pour tester ses connaissances.
Marielle Vituro pour notre tour du monde des correspondants que vous retrouvez à tout moment sur RFI.fr. À bientôt 6h30 en temps universel. La suite sur RFI, c'est un nouveau journal dans moins de 5 minutes. Mais d'abord, c'était hier à Menton, le début de la fête du citron, événement emblématique dans cette ville de la Côte d'Azur, à tel point qu'elle est inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France. Le citron est un emblème de la cuisine méditerranéenne, mais le citron est-il méditerranéen? C'est dans ta nature, Florent Guignard.
Dès le matin, j'arrive et je vends mes citrons de Tel Aviv. Ils sont beaux et j'y tiens, ce sont le seul garanti sans pépin.
De Tel Aviv à Séville, le citron brille en Méditerranée.
Le citron est vraiment introduit dans la culture et dans la cuisine méditerranéenne, comme condiment ou associé à plein de plats. Et ça, il y a vraiment qu'en Méditerranée qu'on le retrouve.
François Lureau est spécialiste de la génétique des agrumes à l'INRA, l'Institut français de la recherche agronomique, au centre de San Giuliano en Corse.
La Méditerranée, on la considère comme en fait la deuxième zone de diversification des agrumes. La première zone, c'est la zone d'origine, l'Asie, où toutes les espèces sont nées.
Mais on ne sait toujours pas très bien où est né le citron, en Inde, en Perse ou en Méditerranée. Une certitude, ses ancêtres sont asiatiques. Le citron est le fruit d'une hybridation spontanée entre le cédrat et l'orange amer. Tous les agrumes qu'on connaît aujourd'hui sont en fait issus de 3 ou 4 espèces primaires dotées d'une grande diversité génétique.
Elles se sont en fait développées dans des régions séparées pendant des millions d'années. Et donc du coup, on voit par exemple entre une mandarine et un pamplemousse, il n'y a aucune ressemblance. Et donc ces espèces sont tellement diversifiées que quand elles se croisent entre elles après, elles génèrent énormément de diversité. C'est-à-dire chaque pépin que vous allez semer d'un croisement mandarine-pamplemousse par exemple, à chaque fois, ce sera un arbre, ce sera une variété différente, avec des caractéristiques différentes les unes des autres.
Oh, un petit citron sauvage.
Il se présente seul, le citron magique, il est fantastique.
Oui, mais le citron n'est pas pressé, François Lureau.
C'est un fruit qui se développe assez lentement. Il lui faut quasiment 6 mois, à peu près. Le passage du vert au jaune chez un citron est lié aux températures basses. Donc, quand les températures diminuent, il y a une dégradation de la couleur verte, de la chlorophylle, et l'apparition d'autres pigments qui donnent cette couleur jaune.
Le citron est un soleil en plein hiver. On passe à la question.
Quand les poules auront des dents, les grands dinosaures reviendront bien vivants du monde des morts.
Quand les poules auront des dents?
En fait, elles en ont déjà eu, enfin. Leurs ancêtres, c'était avant la fin des dinosaures, il y a des millions d'années, mais elles les ont perdues avec l'évolution des dents. Ça ne sert à rien quand on mange des graines. En revanche, un poussin, dans sa coquille, possède ce qu'on appelle la dent de l'œuf au bout de son bec qui lui sert à casser la coquille à sa naissance. Enfin, en France, en 2003, des chercheurs transplantent sur des embryons de poulets des cellules de dents de souris et ça marche, les poulets souris à pleines dents.
Quand les poules auront des dents, je partirai loin, loin de toi maman, qui ne comprend vraiment rien. Je chercherai un pays où les animaux ne finissent pas leur vie au fond d'un frigo. Je suis sûr que demain, les poules auront des dents, et qu'elles te croqueront. Ma petite maman.
Florent Guignard pour C'est dans ta nature, quand les poules auront des dents. Merci d'écouter RFI. Si vous nous rejoignez, le journal dans une minute. A tout de suite.
Le goût du monde, Clémence Denavy.
Des œufs, du miel, des céréales comme du fond de dés par exemple avant le lever du soleil, des infusions de Kinkeliba. À la tombée de la nuit, pour rompre le jeûne, des dattes, de l'eau, du lait. À quelques jours du début du Ramadan, voyons ce dimanche comment nourrir le corps pour laisser l'âme sereine tout à l'heure à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde avec Clémence Denavy sur RFI et aussi en podcast sur RFI.fr.
Tout à l'heure sur RFI, idée, Pierre-Edouard Deldic.
Nous parlons cette semaine d'Albert Camus et aussi d'une réflexion philosophique sur le partage entre humain et non-humain avec l'historien François Hartog.
Les grands textes fondateurs, que ce soit la Genèse, que ce soit les épopées mésopotamiennes, que ce soit Hésiode, commencent par des récits de partage.
Idée, proposée par Pierre-Edouard Deldic, tous les dimanches à 17h10 TU sur RFI.